Source mon rôle, deuxième partie, la vie de Margaret Fox, suite, le texte en bleu clair ou en bleu clair gras peut être cliqué pour renvoyer un passage de l'écriture ou à des détails dans les écrits. Lorsque vous avez cliqué vers la Bible en ligne, vous pouvez la changer et la mettre à jour afin de consulter la version biblique que vous préférez. Retour à la première partie, cet emprisonnement eut lieu en vertu de l'ancienne loi de Pramunir, dont elle avait été relevée l'année précédente. Dès que George Fox atteignit Londres après avoir appris sa nouvelle incarcération, il envoya Mary Lowe et Sarah Fell, ses enfants, auprès du roi, afin de s'efforcer d'obtenir un ordre de mise en liberté, qui fut obtenu non sans difficulté. Elles le portèrent à Lancaster, accompagnées de la lettre suivante de George Fox. « Mon cher cœur dans la vérité et la vie, qui ne change pas, il m'a été mis à cœur que Mary Lowe et Sarah se rendent auprès du roi au sujet de ton emprisonnement, et aussi à Kirby, afin que la puissance du Seigneur paraisse sur eux tous dans ta délivrance. Elles y sont allées, et elles ont ensuite pensé redescendre, mais il m'a été mis à cœur de les retenir un peu plus longtemps, afin qu'elles suivent l'affaire jusqu'à son aboutissement, ce qui est maintenant fait et est envoyé ici. Ma récente déclaration a été très utile, les gens en étant généralement satisfaits. Ainsi, rien de plus que mon amour dans la sainte semence, George Fox, cette seconde indication de la volonté et du bon plaisir du roi à son égard fut remise au shérif par ses deux filles, mais ses anciens ennemis trouvèrent le moyen, en raison d'une irrégularité dans le document, d'éluder même cet ordre. Son mari renouvela donc ses démarches en vue de sa libération, laquelle fut enfin obtenue grâce à Morse Fichet et à une autre amie, qui obtinrent une seconde audience auprès du roi et l'informèrent de toutes leurs difficultés. Le roi accorda alors une décharge complète sous le grand sceau et délivra à la fois elle-même et ses biens des peines liées à la sentence de Pramunir, sous laquelle elle souffrait depuis plus de 5 ans. L'intervention condescendante du roi Charles en faveur de Margaret Fox montre qu'il était opposé à ces mesures violentes contre ses paisibles sujets non conformistes et qu'il se serait probablement tenu à sa proclamation de Breda promettant la tolérance religieuse s'il n'avait été poussé, par ses besoins et sa prodigalité, à concéder ces mesures arbitraires aux partis de la Haute Église afin d'obtenir des subsides. Peu après, elle monta à Londres pour faire ses adieux à son mari, qui allait alors s'embarquer pour l'Amérique. Il fut absent 2 ans, elle le retrouva, à son retour, à Bristol, d'où ils se rendirent ensuite à Londres, où ils séjournèrent quelque temps. Lorsqu'ils prirent congé de leurs amis et se mirent en route vers leur domicile, en compagnie de leur fille Rachel, ils s'arrêtèrent à Rickmansworth pour rendre visite à William Penn et à sa famille, où ils furent rejoints par leur gendre, Thomas Lowe. En quittant Rickmansworth, ils continuèrent leur voyage à travers l'Oxfordshire, visitant les réunions des amis au fur et à mesure, et à Treddington, dans le Worcestershire, ils assistèrent à une réunion d'environ 200 personnes, tenue dans une grange. La réunion s'étant dispersée paisiblement, et s'étant retirée dans la maison de John Halford, George Fox et Thomas Lowe furent arrêtés et incarcérés à la prison de Worcester. George Fox ayant ensuite été frappé de Pramunir par le tribunal local et maintenu en détention, elle se rendit auprès de lui et s'entretint avec les juges, ainsi qu'avec le roi, s'efforçant d'obtenir sa libération. L'affaire fut ensuite transférée de nombreux mois plus tard par Habeas Corpus à la cour du banc du roi, où le juge Hall déclara l'acte d'accusation illégal et nul, et il fut relâché. Ils revinrent ensemble à Swarthmore, lui étant très affaibli physiquement, sa santé ayant gravement souffert de son long emprisonnement. Il demeura à la maison environ 21 mois avant d'être suffisamment rétabli pour reprendre ses voyages, ce qui fut la plus longue période qu'il passa auprès de sa femme depuis leur mariage. La persécution et les saisies de biens se poursuivaient encore, plongeant les amis dans une grande détresse et un appauvrissement. Elle dit en parlant des difficultés qu'ils rencontrèrent à cet égard. « Lorsque mon mari était à Londres, à une époque de grande persécution menée par des délateurs, les juges de notre comté furent très sévères et fortement animés contre moi, parce que je tenais une réunion à Swarthmore Hall. Aussi n'ont-ils pas infligé l'amende à la maison comme si elle était la sienne, puisqu'il était absent, mais comme si elle était la mienne. » Ils m'ont infligé 20 livres d'amende pour la maison et 20 livres pour avoir parlé à la réunion, et la seconde fois, 40 livres pour avoir parlé, et ils ont aussi infligé des amendes à d'autres amis pour avoir parlé, 20 livres la première fois et 40 livres la seconde. Ceux qui n'en avaient pas les moyens, ils en ont frappé d'autres à leur place, et ils ont fait grand butin parmi les amis en saisissant leurs biens, parfois pour moins de la moitié de leur valeur, ils m'ont pris 30 têtes de bétail. Leur intention était de nous ruiner et de nous épuiser, et de s'enrichir, mais le Seigneur les en a empêchés. Son gendre, Thomas Lowe, ayant été frappé de Pramunir et emprisonné, elle lui écrivit la lettre de consolation ci-dessous. « Il était un médecin de Londres, dit Bess, et rendant visite à George Fox lorsqu'il était emprisonné en Cornouailles, lui posa de nombreuses questions au sujet de la religion et reçut de George Fox des réponses si claires qu'il dit que ses paroles furent comme un éclair, tant elles le traversèrent, ajoutant qu'il n'avait jamais rencontré de sa vie un homme d'une telle sagesse et d'une telle pénétration. Par ces moyens, il fut pleinement convaincu de la doctrine de vérité, qu'il professa ensuite publiquement. Il épousa par la suite Mary Fell, à Thomas Lowe et à ses compagnons de souffrance pour le témoignage de Jésus, lorsqu'ils furent frappés de pramunir et prisonniers à la prison de Losseston, cher fils Lowe. Dans la chère et précieuse unité bénie de l'Esprit éternel, et la communion de l'Évangile de paix, c'est en cela que l'amour de mon cœur et de mon âme est rappelé vers toi, et vers tous tes chers frères et compagnons de prison avec toi, qui souffrent pour le témoignage de Jésus. Le désir de mon âme s'adresse au Dieu puissant pour vous tous, afin que vous soyez plus que vainqueurs en Christ Jésus, qui est le grand roi et le Seigneur de tous, et qui tient en ses mains tout pouvoir au ciel et sur la terre, et tous les habitants de la terre ne sont. Que le Seigneur vous préserve dans la domination sur eux tous, et je me réjouis d'entendre, dans chaque lettre qui vient de toi, que tu es bien satisfait et content. Je sais assurément que le Seigneur ne te fera jamais défaut, pourvu que tu demeures fidèle, vrai et d'un cœur sans partage envers lui. Son œil voit et considère tout ce que ses ennemis et les tiens peuvent te faire, et ils recevront assurément de lui une juste et droite rétribution. Mon cher amour est pour toi, dans ce qui ne change jamais, et qui donne la paix, le contentement et la foi pour s'élever au-dessus de ce qui change. Ta chère mère dans le Seigneur, Margaret Fox Swarthmore, le 28 du 7 mois 1683. Le Seigneur me poussa à aller à Londres, dans la 70e année de mon âge, et la parole était en moi, que comme j'étais allé vers le roi Charles lorsqu'il était venu pour la première fois en Angleterre, je devais y aller, lui porter mon dernier témoignage et lui faire savoir comment il nous maltraitait, afin de s'enrichir. Un écrit fut rédigé pour donner un récit vrai et certain de la manière dont ils avaient agi envers moi et envers d'autres amis. Il était dans mon esprit d'aller d'abord auprès du duc d'York. Je lui écrivis un court billet pour l'informer que, puisqu'il avait autrefois parlé en ma faveur au roi, ma demande était qu'il le fasse de nouveau pour moi. J'allai avec ce billet à la maison de James, et, après une longue attente, je parvins à lui parler. Mais certains lui firent savoir que c'était moi qui avais été avec lui et avec son frère peu après leur arrivée en Angleterre. Je lui remis mon petit billet et lui demandai s'il ne se souvenait pas de moi. Il dit « Je me souviens de vous ». Alors je lui demandai de parler au roi pour nous, car nous étions dans de grandes souffrances, et nos persécuteurs étaient si sévères qu'il semblait qu'ils voulaient faire de nous leur proie. Il dit qu'il ne pouvait pas aider, mais qu'il parlerait au roi. Le lendemain, non sans peine, je parvins jusqu'au roi et j'avais mon grand écrit, récit de nos souffrances, à lui présenter, mais il était si rude et si irrité qu'il ne voulut pas le prendre, cependant j'en remis plusieurs copies à ses nobles. Ensuite je me rendis auprès du juge Jeffrey et lui parlai de nos souffrances, car il avait été dans le Nord avec nous un peu auparavant, et il m'avait dit que nous pourrions parler au roi. Je répondis qu'il était très difficile d'approcher le roi. Il dit « Donnez-moi un papier et je lui parlerai », mais il ajouta « Vos papiers sont trop longs, donnez-moi un court, et alors je lui parlerai ». J'écrivis donc un petit papier de ma main, en ces termes « Roi Charles, vous et vos magistrats nous imposez de très grandes et cruelles souffrances, mais je dois vous dire ceci, si vous portez nos souffrances jusqu'à la mort même, nous ne pourrons pas, et n'oserons pas, ne pas confesser le Christ Jésus devant les hommes, de peur qu'il nous renie devant son Père qui est aux cieux ». Il y avait encore quelques mots, mais c'en était la substance, Jeffrey le lut et dit qu'il le lui remettrait. Nous donnâmes aussi des papiers à plusieurs de ceux qui l'entouraient, et ils nous donnèrent quelques encouragements, disant que nous serions aidés, nous l'attendions donc et patientions. Environ une ou deux semaines après, au début du 12 mois, George Whitehead et moi allions chez l'un des lords, qui avait promis à George de parler au roi pour nous. Nous allâmes tôt le matin à son logement, pensant lui parler avant qu'il ne sorte, mais ses serviteurs nous dirent qu'il n'y était pas, étant parti chez le roi, qui n'était pas bien. Alors nous allâmes dans la cour de Whitehall, mais toutes les grilles étaient fermées, de sorte que nous ne pouvions pas entrer. Nous attendîmes donc, allant et venant, et plusieurs sortirent de chez le roi en disant qu'il ne pouvait pas se tenir debout, d'autres disaient qu'il ne pouvait pas parler. Puis, après quelques heures d'attente, nous passâmes par Scotland Yard et nous en allâmes. Le roi demeura malade jusqu'à 6 jours plus tard, lorsqu'il mourut. Cela confirma donc cette parole que Dieu avait mise dans mon cœur et que j'avais été envoyé porter comme dernier témoignage au roi. Ensuite James, duc d'York, fut proclamé roi, et environ 2 semaines après, j'allai vers lui et je lui remis un écrit en ce sens « Roi James, je suis resté ici quelques mois, jusqu'à ce que ce changement advienne, et maintenant je voudrais rentrer chez moi, mais je ne puis y vivre paisiblement à moins de recevoir de vous une parole, pour mettre un terme à mes persécuteurs. » Je lui parlai dans le même sens. Il me dit « Rentrez chez vous, rentrez chez vous ». Ainsi, après quelques semaines, je rentrai chez moi. Et peu de temps après, William Kirby, un juge de paix, l'un de nos plus grands persécuteurs, rencontra mon gendre Daniel Abraham sur la route et lui dit « Dis à ta mère que maintenant le gouvernement va de nouveau être établi, et si vous tenez des réunions, vous devez vous attendre à la même chose. » Mon fils lui répondit « Nous devons tenir des réunions, à moins que vous ne preniez nos vies. » Alors William Kirby dit « Nous ne prendrons pas vos vies, mais tant que vous aurez quelque chose, nous le prendrons. » J'écrivis donc une lettre au roi James dans laquelle je dis « Vous m'avez dit de rentrer chez moi, et j'y suis, mais comme je vous l'ai dit, je ne pouvais pas y vivre paisiblement, il est donc probable que ce sera ainsi. » Puis j'évoquai dans ma lettre les propos de W. Kirby avec mon fils. Je demandai au roi de me donner quelque chose de sa part, afin que je puisse vivre paisiblement dans ma maison. Cette lettre lui fut remise, et d'après ce que j'ai entendu, il la porta au conseil et elle fut lue, et certains membres du conseil dirent « Elle demande une protection, afin qu'elle puisse vivre paisiblement dans sa propre maison. » D'autres répondirent qu'ils ne pouvaient accorder de protection à un particulier. Toutefois, je suppose qu'ils donnèrent en privé un avertissement à nos persécuteurs, car ils ne nous troublèrent plus. Mais sans cela, il est probable qu'ils avaient l'intention de recommencer à nous persécuter. Car un peu avant l'époque des délateurs, ils appliquèrent contre nous cette loi des 12 pences par dimanche, comme on l'appelait, et ils m'emmenèrent, ainsi que mon fils et ma fille Abraham, à la prison de Lancaster, et nous y gardèrent environ 3 semaines. Lorsqu'ils virent qu'ils ne pouvaient pas me mettre à l'amende, ni ma maison tant que j'étais en prison, ils nous laissèrent rentrer. Peu après, ils nous infligèrent à tous deux une amende, tant pour la maison que pour avoir parlé, comme je l'ai mentionné. Ainsi nous ont-ils troublés et persécutés de bien des manières, mais le Seigneur Dieu Tout-Puissant m'a préservé, et nous a préservé, jusqu'à ce jour, que des louanges glorieuses lui soient rendues à jamais. Et le Seigneur m'a donné une telle force et capacité que je suis allée à Londres, pour voir mon cher mari, mes enfants, mes parents et mes amis, en 1690, dans la 76e année de mon âge, et j'ai été très satisfaite, rafraîchie et consolée dans mon voyage, et j'ai trouvé les amis dans beaucoup d'amour, que des louanges soient rendues à l'immuable Dieu à jamais. C'était la 9e fois que j'allais à Londres, pour la cause du Seigneur et de sa vérité. La compagnie de ses 2 filles, épouses de John Roose et de William Meade, la première résidant à Kingston-upon-Thames et la seconde à Goussus dans l'Essex, lors de ses visites à Londres, lui fut sans doute très réconfortante et leur donna à elle une grande satisfaction. C'était aussi des lieux de séjour privilégiés de George Fox lorsqu'il se trouvait dans ce voisinage. Après être rentrée chez elle, elle écrivit l'épître suivante à la réunion des femmes à Londres. « Chère sœur, dans la vérité éternelle et bénie, en laquelle nous sommes engendrés, et en laquelle nous nous tenons, et sommes préservés si nous y demeurons et sommes conduits par elle. C'est en cela que mon cher amour immuable est rappelé vers vous toutes, reconnaissant votre cher et tendre amour lorsque j'étais avec vous, dont mon cœur s'est réjoui, en ressentant parmi vous l'amour ancien et l'unité de l'Esprit éternel. Et mon âme a été et est rafraîchie dans mon voyage, en rendant visite à mon cher mari et à mes enfants, et à vous, mes chers amis. » Et maintenant je suis retournée dans ma maison et auprès de ma famille, où je trouve tout le monde en bonne santé, que mon Père Céleste soit loué et honoré. Et chers amis, nos engagements envers le Seigneur sont grands, et il nous est cher et fidèle, et bien heureux et heureux sont tous ceux qui lui sont chers et fidèles. Et ceux qui se gardent pour lui seuls et chastes n'ont pas à craindre de mauvaises nouvelles, ni ce que l'homme peut faire, car celui qui tient en sa main toute puissance au ciel et sur la terre gardera assurément son église et sa famille. Ceux qui l'adorent à l'intérieur de la ligne de mesure qui mesure le temple, l'autel et ceux qui y adorent, ils sont gardés en sécurité, tous dans le creux de sa main. Ainsi, chers amis, mon cœur et mon âme ont été tant consolés et rafraîchis parmi vous, que je ne pouvais que vous signifier le souvenir de mon cher amour, ainsi que la reconnaissance de votre cher amour et de votre tendresse envers mon cher mari, pourquoi je ne doute pas que le Seigneur vous récompense et vous récompensera, entre les mains, le bras et la puissance duquel je vous remets. Margaret Fox Swarthmore, le dit du 5 mois, 1690 chapitre V 1690-1702 mort de George Fox, retour à Londres, adresse au roi William sa mort, et ses dernières paroles, témoignage de ses enfants et d'autres amis sur son caractère, inhumé à Swarthmore. Dans la dernière partie de l'année 1690, son mari, dont la santé déclinait depuis plusieurs années, mourut à Londres, chez Henry Gouldney, après quelques jours de maladie, dans un grand contentement et dans la paix. Il échut à William Penn, dit Clarkson, de communiquer cet événement à sa femme. « Je dois être, dit-il, celui qui vous annonce une triste nouvelle à certains égards, à savoir que votre cher mari, et mon ami bien-aimé et cher, a achevé son glorieux témoignage cette nuit vers 9h30, demeurant conscient jusqu'au dernier souffle. Il s'en est allé, et nous a laissés dans la tempête au-dessus de nos têtes, assurément par grande miséricorde pour lui, mais comme un signe pour nous d'un chagrin à venir. Un prince est tombé aujourd'hui en Israël, il est mort comme il a vécu comme un agneau, ayant à cœur les choses de Dieu et de son Église jusqu'à la fin, dans un esprit universel. Ils avaient été mariés environ 21 ans, et durant cette période, il n'avait passé qu'une faible partie du temps auprès d'elle, ses divers engagements religieux le tenant presque constamment éloigné de Swosmo. Cette circonstance donna probablement lieu à quelques remarques critiques, car sa femme, en parlant de cela, dit « Et bien que le Seigneur lui eût pourvu une demeure extérieure, il n'était pas disposé à y rester parce qu'elle était si éloignée et si loin de Londres, où se trouvait l'essentiel de son service. Et mon souci pour Dieu et sa sainte et éternelle vérité était alors dans le Nord, où Dieu m'avait placé et établi, et aussi pour l'ordre et la direction de mes enfants et de ma maison, de sorte que nous consentîmes tous deux à vivre séparés quelques années pour la cause de Dieu et au service de sa vérité, et à nous priver de ce réconfort que nous aurions pu avoir en étant ensemble, pour l'amour et le service du Seigneur et de sa vérité. Si quelqu'un en a pris occasion, ou nous a jugés durement à cause de cela, le Seigneur les jugera, car nous étions innocents. Quant à moi, j'étais disposé à faire bien des longs voyages pour ôter toute occasion de mauvaises pensées, et bien que je vécusse à 200 000 de Londres, j'y suis pourtant allé 9 fois pour la cause du Seigneur et de sa vérité, et de toutes les fois où j'ai été à Londres, cette dernière fut la plus réconfortante. Le Seigneur a bien voulu me donner la force et la capacité d'accomplir ce grand voyage, dans ma 76e année pour voir mon cher mari, qui avait meilleure santé et plus de vigueur que bien des fois auparavant. Je considère que la main particulière du Seigneur y était, pour que j'y aille alors, car il ne vécut qu'environ un demi-an après que je l'eus quitté, ce qui me fait admirer la sagesse et la bonté de Dieu d'avoir ordonné mon voyage en ce temps-là. À ce propos, il faut se rappeler que George Fox, durant sa vie conjugale, fut toujours sans relâche occupé à propager avec zèle sa conception de la foi chrétienne et à établir la société religieuse qui en est issue. En tant que ministre de l'Évangile, il visita l'Amérique du Nord et les îles des Indes occidentales, se rendit 2 fois en Hollande et dans d'autres régions du continent européen, sans compter de longs et pénibles voyages dans son pays natal, subissant aussi un emprisonnement de 14 mois à la prison de Worcester. Tant que sa grande mission restait à accomplir, il renonça avec sérénité à l'aisance d'un foyer confortable et à la société d'une famille attachante. Son activité et son zèle étaient remarquables, l'amour de Dieu et l'amour du prochain, ainsi que l'intérêt du peuple bien-aimé que le Seigneur lui avait permis d'appeler, des montagnes stériles et désolées d'une profession vide, à venir s'asseoir sous leurs propres vignes et leurs figuiers, où nul ne pouvait les effrayer, furent les puissants motifs qui gouvernèrent sa conduite. Dans l'accomplissement de son devoir envers son Maître divin, il fut rendu disposé à abandonner non seulement maisons et terres, mais aussi sa femme, pour lui et pour l'Évangile. Au prix de beaucoup de temps et de patience, il comparaissait fréquemment devant les rois, le Parlement et les juges afin de leur soumettre des appels à la justice, à la miséricorde et à la modération. Il s'employa aussi, avec d'autres, à établir ses excellentes règles de discipline destinées au gouvernement de la Société des Amis, à défendre ses doctrines contre les arguments et les chicanes d'adversaires et d'apostats, et à écrire et publier des livres à ses fins et à d'autres. Londres étant la métropole du royaume, la réunion annuelle s'y tenant, et beaucoup d'amis éminents et influents résidant dans cette ville, George Fox devait nécessairement s'y trouver souvent pour veiller aux intérêts temporels de la Société des Amis. Les facilités de voyage d'aujourd'hui contrastent vivement avec l'époque que nous considérons, où presque aucun transport public n'était alors en usage. Les diligences commençaient tout juste à apparaître sous le règne de Charles I, et c'étaient des véhicules lents, peu commodes et lourds, ayant peine à parcourir de jour la distance entre Oxford et Londres, trajet qui s'effectue aujourd'hui en un peu plus d'une heure. Le voyage à cheval était couramment et presque universellement pratiqué, les voitures particulières étaient utilisées surtout par les classes les plus aisées, et des chariots transportant des marchandises vers différentes régions du pays prenaient aussi à leur bord quelques personnes plus pauvres. L'état des routes, à cette période, constituait également un sérieux obstacle au confort du voyage. Beaucoup étaient si mal entretenues qu'elles en devenaient presque impraticables, et souvent infestées de bandits de grand chemin, de sorte qu'un voyage de 200 000, avec ses difficultés, a pu constituer une raison très importante de son absence fréquente du domicile à cette époque. Il semble que Margaret Fox visita de nouveau Londres par souci religieux en l'année 1698. À cette occasion, elle adressa la lettre suivante au roi William, qui lui fut remise par sa fille, Susan Ingram, au roi William. « Il a plu au Dieu Tout-Puissant de me conduire en ce lieu, à 200 milles de mon habitation, dans ma vieillesse étant entré dans ma 85e année, pour rendre mon témoignage à cette vérité éternelle dont moi et beaucoup d'autres sommes rendus participants, loué soit le Seigneur, et je ne suis pas libre et dégagé de retourner à mon domicile avant de m'être acquitté envers ce gouvernement. J'ai été exercé de cette manière la première année où le roi Charles Yi monta sur le trône, et j'ai travaillé parmi eux une année entière, afin de les informer et de leur donner une compréhension de nos principes, en leur remettant des lettres et des papiers à cette fin. Nous rencontrâmes une grande opposition tant de l'Église que de l'État. Pourtant, il plut à Dieu de les amener à nous accorder quelques libertés de l'adorer, quoique parfois au milieu de grandes souffrances. Maintenant, je dois faire savoir au roi William que nous sommes un peuple depuis environ 46 ans, que nous avons vécu sous plusieurs règnes, et que nous avons beaucoup souffert, comme la nation d'Angleterre le sait bien, jusqu'à la mort de plusieurs centaines d'entre nous par l'emprisonnement et d'autres rigueurs, et pourtant nous n'avons jamais été trouvés en transgression d'aucune loi juste ou droite, mais seulement à cause de notre conscience devant Dieu. Suivre notre conscience fut la cause de nos souffrances, et non le mal ou le tort fait à quelque homme ou gouvernement, car notre principe, dont nous rendons témoignage, est la lumière de Jésus-Christ et son Esprit éternel, qui conduit dans toute vérité et justice, mais non vers quelque mensonge ou action mauvaise. Si quelqu'un, portant parmi nous le même nom, a transgressé contre la précieuse vérité et la loi royale de liberté, nous les jugeons et les condamnons, dans le même esprit, partout où ils se trouvent. Nous nions tous complots et machinations contre le gouvernement, ainsi que toute conduite fausse et sournoise. Nous vivons dans ce principe qui est droit, juste et vrai, car Dieu est un Dieu de vérité, et bienheureux sont tous ceux qui le craignent et marchent dans sa vérité. Maintenant, Dieu vous a établi sur nous, dans ce gouvernement, qui a été très modéré et miséricordieux envers nous. Nous vivons très commodément sous vous et sous lui, et nous jouissons paisiblement de nos réunions, autrefois fortement troublées, ce qui nous causait de grandes souffrances. Dieu a béni votre gouvernement et fait prospérer vos entreprises, pourquoi le roi et nous avons sujet de bénir son saint nom, il est un Dieu de paix, et son fils est prince de paix, il nous a maintenant donné paix et tranquillité, pourquoi nous louons son saint nom. Votre gouvernement doux et votre clémence, ainsi que vos actes gracieux, Dieu vous en récompensera. Tant que nous demeurerons dans ce principe juste et droit du Dieu éternel, par lequel nous devons tous être guidés, j'espère que le gouvernement n'entendra jamais rien de pire à notre sujet, mais que nous serons plutôt une bénédiction qu'un fardeau pour lui et pour la nation, car il en sera ainsi si nous continuons dans la vérité bénie. Dans cette vérité, je prie Dieu de vous préserver, moi qui suis sa servante et votre fidèle sujet. Elle mourut à Swarthmore le 23 du 2-1-1702, dans la 88e année de son âge, ayant survécu à son mari d'environ 11 ans. Ses enfants disent, le Dieu béni du ciel et de la terre lui conserva l'entendement jusqu'à la fin, et durant sa maladie, elle était dans une douce disposition d'esprit et prononça, vers sa fin en ce monde, de nombreuses expressions célestes, dont quelques-uns d'entre nous furent témoins de vue éduits. Et nous croyons qu'elle hérite d'une demeure céleste, préparée par le Seigneur Jésus-Christ pour tous ses fidèles disciples. Thomas Docret, qui la visita peu avant sa mort, lui demandant comment elle se trouvait, elle répondit, « Très faible de corps, mais vivante en Dieu. » Il l'entendit aussi prononcer beaucoup de paroles consolantes et excellentes. Ainsi, le Seigneur est avec moi, et je suis avec le Seigneur, et c'est en lui seul que je mettrai ma confiance, remettant tout à la providence divine du Seigneur, tant au sujet de mes enfants et petits-enfants que de toutes les choses dont ils jouissent de sa part spirituelle et naturelle, lui qui est le Dieu de toutes les miséricordes et bénédictions pour son peuple, de génération en génération, à lui soit des louanges glorieuses à jamais. Amen. Sa fille, exprimant quelle mère bénie elle avait été pour ses enfants et toute sa postérité, elle répondit très doucement, « Attache-toi à moi, et tu ne feras pas mal, car je suis unie au Seigneur. » Une autre fois, elle dit, « Oh, mon doux Seigneur, c'est dans ton sein que je me remets librement, ne désirant pas vivre dans ce monde pénible et douloureux, tout cela n'est rien pour moi, car mon Créateur est mon époux. Venez, venez, je vous en prie, unissons-nous au Seigneur et soyons d'un même esprit, unissons-nous au Dieu éternel et soyons d'un même esprit. Une autre fois, viens Seigneur Jésus, je me livre librement à ta volonté. » Elle dit encore, « Je pardonne librement à tous les hommes sur la face de toute la terre tout tort qui m'a été fait, aussi librement que je désire être pardonné. » Voyant ses enfants affligés, elle dit, « Restez tranquille, car je suis aussi à l'aise et bien en esprit que je ne l'ai jamais été. » Et un peu avant sa fin, à sa fille Rachel, « Prends-moi dans tes bras, je suis en paix. » Elle fut inhumée dans le cimetière appartenant à la maison de réunion de Swarthmore, le 27 du 2 mois, en présence de nombreux amis venus de plusieurs comtés. Thomas Cam, qui assista à ses funérailles, remarque, « Le Seigneur se manifesta éminemment avec nous, et beaucoup de témoignages furent rendus à l'honneur de la vérité, et à la grande satisfaction de plusieurs personnes présentes, de grande qualité et de haut rang dans le monde. Et pour le réconfort et l'édification de tous les cœurs droits devant Dieu, à qui appartient la louange de toutes ses œuvres merveilleuses et de son admirable bonté étendue et multipliée sur son peuple, en est par notre Seigneur Jésus-Christ, au siècle des siècles. Amen. Dans le témoignage de ses enfants à son sujet, ils disent « Le Seigneur accrut tellement sa croissance dans la vérité bénie, qu'elle devint une mère en Israël, et fut très exemplaire et utile dans l'Église du Christ, fortifiant les faibles et soutenant les défaillants. Un grand soin reposait sur elle, et elle était très diligente à parler et à promouvoir la vérité de notre Seigneur Jésus-Christ, tant dans cette nation, où elle voyagea beaucoup, qu'à d'autres nations par des épîtres. Elle exerça et continua ce soin pendant de nombreuses années, jusqu'à ce que la vérité ait fait une entrée plus large dans les nations, décourageant et reprenant toutes les apparences trompeuses qui auraient donné l'illusion de ce qu'elle n'était pas. Et le Seigneur fit d'elle une prédicatrice de justice, tant par un témoignage public pour la vérité que par sa vie et sa conduite. Elle conserva son zèle et sa constance pour la vérité, en assistant avec diligence aux réunions hebdomadaires, trimestrielles, mensuelles et autres pour le culte, dans lesquelles elle fut réellement exemplaire, jusque près de la fin. Et aussi, elle fut suscitée et préservée comme une noble et vaillante souffrante pour la vérité et son témoignage innocent. Aussi n'épargna-t-elle ni travail, ni peine à voyager pour visiter ceux qui étaient détenus à cause de cela, et elle leur fut là un réconfort et une force. Thomas Cam témoigne à son sujet. Et comme elle renonça librement et méprisa la gloire de ce monde passager, pour l'amour du Christ et de la vérité, Dieu lui donna de l'honneur et un nom parmi les justes, avec des qualités de bien des manières, pour un service considérable dans son Église, où elle brilla comme une étoile du matin, remplie d'une véritable sagesse et intelligence pour la propagation de la vérité et de la justice. Elle reçut un clair discernement des esprits et de l'œuvre de l'ennemi, qui détourne de la vie et de la puissance de la vérité vers une liberté qui engendre l'esclavage, et vers la séparation et la rupture de l'unité parmi les amis, s'y opposant avec fermeté et zèle, pour le réconfort et l'aide de beaucoup. Elle était fervente et vivante dans son ministère, et dans les supplications et les prières au Dieu Tout-Puissant, pour l'édification et l'affermissement de beaucoup dans cette foi très précieuse qui donne la victoire sur le monde. Non seulement une grande et exemplaire souffrante pour la vérité, mais une visiteuse et une compagne compatissante de tous les fidèles dans leurs souffrances, travaillant avec zèle et s'efforçant auprès de ceux qui étaient en autorité pour leur soulagement, étant affligée avec les affligés et pleurant avec ceux qui pleuraient, se confiant dans le bras de la puissance de Dieu, qui est le soutien des justes. Elle ne s'épargna jamais et ne douta pas du bon succès dans ses multiples travaux pour la cause de la vérité, tant dans son ministère au loin, en la plupart des lieux de cette nation, que dans d'autres services. Mais se montra telle dans le zèle qu'elle n'avait pas à rougir de son œuvre et de son service pour le Seigneur, sa vérité et son peuple en son temps. Elle rendit ses services avec toute sincérité, et elle est maintenant récompensée par la pleine jouissance de la vie éternelle et par la paix avec son Dieu, qu'elle a aimé, craint et servi d'un cœur droit, fidèlement en toutes choses, tant qu'il plut à Dieu de lui donner force et capacité pour les accomplir. George Whitehead dit « Elle avait un soin pieux pour l'éducation sobre et vertueuse de ses enfants et de sa descendance, et le Seigneur la bénit et l'exauça en cela dans une bonne mesure, et sans doute les bénit-il d'autant plus à cause d'elle, ainsi que pour leur propre salut, pour lequel elle travaillait surtout en esprit et recherchait ardemment le Seigneur en leur faveur, au-delà de toute bénédiction temporelle. » Outre l'épître adressée aux amis par Margaret Fox, elle entretint une vaste correspondance avec nombre de personnes dirigeantes et éminentes de la société, dans toutes les parties de la nation. De nombreuses lettres qui lui furent adressées sont conservées dans la collection de Swarthmore, portant principalement sur les difficultés et persécutions sous lesquelles beaucoup de ses membres souffrirent, et sur les diverses démarches faites auprès des monarques, du Parlement et des magistrats pour obtenir réparation. Il est très remarquable d'observer le respect avec lequel elle était considérée par les premiers amis, ainsi que les termes affectueux par lesquels ils s'adressaient à elle. Edward Burroughs la qualifie ainsi « Chère sœur, vous qui êtes un rameau fécond dans la vigne vivante et une plante agréable dans le jardin de Dieu. » Et Alexandre Pock, « Sœur bien-aimée, c'est avec affection que je vous salue. Notre vie est une, notre joie une, notre souffrance une, notre nourriture et notre vêtement un, mangeant tous deux d'un même pain et buvant tous deux d'une même coupe dans la maison du Père, où il y a du pain en abondance et des puits d'eau vive pour rafraîchir les plantes délicates, où les petits sont nourris et allaités de lait et reçoivent leur nourriture au temps convenable. Là, il y a joie et réjouissance en la présence du Seigneur, et des délices pour toujours, que seuls goûtent ceux qui ont suivi l'agneau à travers de nombreuses tribulations, épreuves de feu et tentations, et qui ont vaincu par le sang de l'agneau, et dont les vêtements ont été lavés, rendus blancs et purs. Alléluia et louanges à son nom glorieux à jamais, lui qui nous a appelés et choisis, et nous a rendus participants de la nature divine, et nous a rachetés du monde et de ses souillures, afin d'être témoins de son nom puissant. Et dans sa puissance et son libre amour, il nous a envoyés au loin dans le monde, pour détourner d'autres des ténèbres et de leur vaine conduite, afin qu'ils aient union avec nous dans la lumière de son Fils, et loue et glorifie sa majesté éternelle à jamais et à toujours. Combien elle était aimée de ses proches ressortira de l'extrait suivant d'un mémoire rédigé après sa mort par ses gendres. Et quant à nous, ses gendres, nous ne pouvons que rendre témoignage du sentiment que nous avons de sa valeur, et nous nous estimons heureux, et c'est pour nous une miséricorde singulière que le Seigneur nous ait donné pour épouse les filles d'une personne si digne, et que nous soyons participants de leur éducation vertueuse, par laquelle elles sont rendues une bénédiction pour nous. En effet, elle semble avoir été considérée comme une mère nourricière dans l'Église, tant spirituellement que temporellement, visitant les amis en prison, les accueillant dans sa maison, et dispensant librement de ses biens pour leur réconfort et leur soutien. Ainsi, ayant fidèlement servi sa génération selon la volonté de son Père céleste, elle est passée, n'en doutons point, à la jouissance de cette glorieuse récompense promise aux justes, à ceux qui, au travers de nombreuses tribulations, ont lavé leurs robes et les ont blanchies dans le sang de l'agneau. Épître préface aux épîtres de Margaret Fox, écrites par elle-même. Lecteur ami, les épîtres suivantes furent écrites lors de la première apparition de la vérité parmi nous, lorsque nous y étions encore jeunes, la lumière du Christ étant notre premier principe, nos esprits s'y étant tournés, et celle-ci étant devenue notre maîtresse, conductrice et guide, nous vîmes clairement qu'il n'y avait ni sûreté ni préservation hors du péché et de la transgression, sinon en obéissant à la lumière et en la suivant dans nos cœurs et nos consciences, elle conduisant hors du péché, de la transgression et de l'iniquité. Ainsi nous apprîmes à discerner entre le précieux et le vil, entre le saint et l'impur, entre la paille et le blé, et entre ceux qui servent Dieu et ceux qui ne le servent pas. Lorsque nous parvînmes à cette vue, à cette connaissance et à ce discernement, nous devînmes alors très zélés pour Dieu et pour sa vérité, et pour la préservation de son peuple dans la vérité, nos cœurs devinrent tendres, et nous eûmes compassion de l'âme de tous ceux qui demeuraient dans les ténèbres. Le Seigneur nous poussa à écrire souvent aux amis, et notre témoignage portait beaucoup sur la lumière du Christ dans la conscience, car nous vîmes que c'était là le chemin, et qu'il n'y en avait pas d'autre, car Christ Jésus a dit « Je suis la lumière », il a aussi dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie, et nul ne peut venir au Père que par moi. » Ainsi nous reçûmes son témoignage, et nous pouvions y apposer nos sceaux que cela était vrai. Alors nous vîmes le grand enjeu qui s'y attachait, à savoir le salut des âmes des pauvres gens. Sachant, comme Christ l'a dit, que ceux qui haïssaient la lumière, c'était là leur condamnation, et aussi que ceux qui lui obéissaient, elle les conduirait à Christ, leur salut. Cela nous rendit très pressants auprès de tous, tant des amis que des autres, pour les diriger vers la lumière et les exhorter à lui obéir. De plus, il y avait une telle masse de ténèbres qui faisait la guerre à la lumière, car les gens avaient vécu dans les ténèbres, hors de la connaissance de la lumière, si bien que c'était pour eux une doctrine si nouvelle qu'il y eut une puissante guerre dans l'esprit des hommes contre elle. Les prêtres et les docteurs se dressèrent contre elle, l'appelant une lumière naturelle, et certains disaient que c'était une lumière faible, d'autres, par dérision, l'appelaient une lanterne sombre, et d'autres encore disaient qu'elle n'était pas suffisante pour condamner. Ainsi, dans leurs imaginations ténébreuses, ils la combattaient. Nous eûmes beaucoup à faire au commencement pour amener les gens à être convaincus de la vérité et de sa suffisance, et aussi pour maintenir dans l'obéissance ceux qui en étaient convaincus. Mais le bras et la puissance du Seigneur menèrent à bien son œuvre, malgré toute l'opposition de la puissance des ténèbres, gloire et louange à son saint nom pour toujours. Voici quelques épîtres conservées, mais beaucoup d'autres manquent, les copies étant tenues pour perdues, avec bien d'autres papiers et lettres qui auraient pu être utiles, mais par amour pour tous, nous présentons au grand jour celles que nous avons, afin que, si le Seigneur leur donne sa bénédiction, elles puissent être utiles à l'avenir, comme elles l'ont été à beaucoup par le passé. La vérité est une et toujours la même, et quoique les âges et les générations passent, qu'une génération s'en aille et qu'une autre vienne, pourtant la parole, la puissance et l'esprit du Dieu vivant demeurent à jamais, et sont les mêmes, et ne changent jamais. Ainsi, lecteur, attache-toi à la bienheureuse lumière et vérité du Dieu vivant qu'il a placée dans ton cœur, crois-y grec, prête-lui l'oreille et obéis-lui, et elle te conduira sur le chemin que nous avons suivi, et alors tu verras, sentiras et comprendras ce que nous avons traversé. Tu viendras à être témoin du Dieu vivant et de sa vérité, qui seront paix et consolation pour ton âme. Que le Seigneur Dieu Tout-Puissant ouvre ton cœur et éclaire l'œil de ton intelligence, afin que tu en viennes à avoir unité avec tous les saints dans la lumière. Une épître générale aux amis, 1655 amis, que le Seigneur Dieu a appelé à la lumière qui est éternelle, que le Seigneur Dieu a envoyé pour faire sortir sa semence de la servitude et de la maison des ténèbres, de dessous Pharaon et ses exacteurs, laquelle a été si longtemps tenue sous la puissance ténébreuse et le mystère d'iniquité. Le Seigneur Dieu de vie et de puissance vous a visité et a envoyé ses serviteurs pour vous réveiller et pour vous relever d'entre les morts, afin que Christ vous donne la vie, lui qui est venu et vient pour racheter Israël, pour fendre la mer Rouge et pour renverser Pharaon et son armée. Tenez-vous immobile, je vous le dis, et voyez le salut de Dieu, et dans la crainte du Dieu vivant, attendez humblement dans votre propre mesure de grâce et écoutez-y diligemment, afin que vos âmes vivent. C'est ce que vous devez faire si jamais vous voulez être témoin du Dieu vivant. Ainsi, au nom et par la puissance du Seigneur Jésus-Christ, devant le nom duquel tout genou fléchira et toute langue confessera, gardez-vous de dépenser votre argent pour ce qui n'est pas du pain et votre travail pour ce qui périt. C'est la main diligente qui enrichit, mais les oisifs, les paresseuses et les négliges souffrent le besoin. Gardez-vous de vous éloigner de votre guide, qui vous maintient humble et tendre, et estimez l'amour de Dieu s'il venait jamais à vous visiter, et prenez garde de ne pas lui rendre le mal pour le bien, car il est un Dieu jaloux, et ne tiendra point le coupable pour innocent. Ce sont les petits, les doux et les humbles que le Seigneur Dieu instruit, c'est l'esprit brisé et contrit que Dieu ne méprise point. Celui qui est le très haut et le sublime, qui habite l'éternité, demeure dans le cœur des humbles. Mais tous ceux qui se sont élevés dans leurs imaginations, le Seigneur Dieu les dispersera, et les orgueilleux, les hautains et les superbes, le Seigneur leur résiste, et vous en serez témoins. Le Seigneur nourrit les spirituellement affamés, mais les riches sont renvoyés les mains vides. Ceux qui ont faim et soif de justice, le Seigneur les rassasie. Ainsi lisez, et avec la lumière éternelle examinez, recherchez, éprouvez ce que vous avez soif de poursuivre. Est-ce la justice, la pureté et la sainteté? Car ce sont là des choses que le Seigneur rassasiera. Et quiconque ne cherche pas ainsi ne recevra jamais satisfaction du Seigneur Dieu, mais la colère, la terreur et l'horreur tomberont sur ce qui est contraire à cela. Ainsi, puisque vous aimez votre paix éternelle et la rédemption de vos âmes, demeurez humbles dans votre mesure du témoignage vivant qui vient du Dieu vivant, lequel est un en tout, un dans sa mesure, il n'y a ni division ni déchirure, mais tout est un. Cela rassemble vos cœurs, et cela vous attache et vous unit au corps, là où est l'unité. Et qui ne rassemble pas ici disperse, et celui qui n'est pas avec nous ici est contre nous. Ainsi examinez et éprouvez si maintenant, vous rassemblez ou si vous dispersez, avec la lumière qui est éternelle, qui est une en tout. Examinez et éprouvez-vous vous-même, je vous en conjure, comme vous en répondrez devant le Seigneur Dieu, descendez et courbez-vous sous le joug de Christ, qui est doux, et prenez sur vous son joug et son fardeau qui est léger, et prenez garde de sortir de dessous le joug de l'obéissance, ou de retirer l'épaule. Car le Seigneur Dieu ne requiert pas seulement le sacrifice, mais l'obéissance qui vaut mieux. L'esprit qui regarde au dehors, hors de la mesure dont il jouit, et s'attache à quoi que ce soit d'extérieur, contrairement à la liberté de l'esprit au-dedans, cet esprit est pour le jugement. L'esprit éternel de Dieu est un en tout, et ce qui divise l'un avec l'autre est pour le jugement, car là où il y a division, le royaume ne peut subsister. Ainsi lisez où vous en êtes, car si vous êtes dans ce qui est divisé, vous ne pouvez subsister. Ainsi, dans l'amour et la tendresse pour vos âmes, je vous avertis et vous enjoins de la part du Seigneur, demeurez dans la lumière, qui est une, dans la puissance, qui est une, et dans la mesure de vie manifestée en vous, qui est une. Ici, point de division ni de séparation, mais un rassemblement et un lien. Si vous aimez la lumière, alors vous venez à la lumière pour être éprouvés et mis à l'essai, afin de voir si vos œuvres sont faites en Dieu. Mais ce qui est la lumière se détourne de la lumière, et cela sera condamné par la lumière pour toujours. Quand bien même vous vous détourneriez de la lumière, là où est l'unité, et que vous vous détourneriez de la vérité éternelle, vous ne pourrez jamais échapper au témoin de Dieu dans vos consciences, qu'il a placé en vous, qui rend témoignage au Dieu vivant, car il vous poursuivra où que vous alliez. Ceux qui sortent de la lumière, leur résurrection est pour la condamnation, et ils seront placés à gauche parmi les boucs, et auront leur part avec les hypocrites et les incrédules, et cela sera attesté pour toujours. J'ai été poussé par le Seigneur à vous écrire ceci avec amour et tendresse envers la mesure de Dieu en vous, avec laquelle j'ai unité, et qui rendra témoignage pour moi à jamais, et ceci est par amour pour vos âmes. Ainsi que le Seigneur Dieu de vie et de puissance vous garde vivant dans ce qu'il a placé en vous, pour sa gloire éternelle, car nous sommes une bonne odeur pour Dieu, tant en ceux qui sont sauvés qu'en ceux qui périssent. Prenez garde de vous retirer de la vérité éternelle que le Seigneur Dieu vous a présentée avec douceur, et dont vous témoignerez éternellement qu'elle vient de Dieu. Car celui qui se retire, mon âme ne prend point plaisir en lui, dit Dieu. Ce que nous avons entendu, vu et senti, et ce que nos mains ont touché, la parole de vie même, vous a été annoncée. De la part de quelqu'un qui désire le bien de toutes les âmes, Margaret Fell, une épître aux amis convaincus, en 1666. Chers amis, frères et sœurs, dans la lumière éternelle par laquelle nous sommes rassemblés, et qui est notre maîtresse et notre guide, cette lumière vient de notre Seigneur Jésus-Christ, le chef de notre salut, en qui est la vie, et cette vie est la lumière de tous les hommes, lui qui a donné sa vie pour ses brebis, et qui donne à ses brebis la vie éternelle, et cette vie est en son Fils. Votre justice vient de moi, dit le Seigneur, et c'est là l'héritage des saints. Vous en êtes rendus participants, vous qui marchez dans la lumière et demeurez dans la lumière, vous aurez la lumière de la vie, et vous en viendrez à connaître le seul vrai Dieu, et Jésus-Christ qui l'a envoyé, lui qui est venu comme une lumière dans le monde. Celui qui croit en lui ne marchera pas dans les ténèbres, et ne périra pas, mais aura la vie éternelle. Et c'est l'amour gratuit du Père, envoyé son Fils unique dans le monde, qui est haï et rejeté des hommes, mais choisi de Dieu et précieux, et qui est devenu la pierre angulaire, gloire éternelle au Dieu vivant. C'est sur lui que nous sommes édifiés, en lui que nous sommes enracinés et fondés. Il est notre fondement et notre racine, nous sommes sa postérité, sur laquelle nous demeurons fermes, inébranlables. C'est la pierre d'angle que tous les bâtisseurs rejettent et désavouent. Mais c'est sur ce rocher que toute l'Église est bâtie, faite de pierres vivantes, élues et précieuses, le temple spirituel, dont Dieu est l'architecte et le constructeur. Et maintenant, ayant un grand prêtre sur la maison de Dieu, approchons-nous avec un cœur sincère, dans la pleine assurance de la foi, ayant nos cœurs aspergés et purifiés d'une mauvaise conscience, et nos corps lavés d'une eau pure, elle parle d'une eau spirituelle, d'en haut dont il faut rendre témoignage, non du baptême d'eau terrestre, de même que nous devons témoigner du feu du baptême qui brûle toute impureté, nous laissant purs. C'est pourquoi retournez au berger de vos âmes et au prêtre immuable, établi par serment pour toujours selon l'ordre de Melchisédek, qui est devenu garant d'une meilleure alliance, qui n'a pas besoin d'offrir chaque jour des sacrifices, mais a offert un seul sacrifice, et s'est assis pour toujours à la droite de Dieu, attendant désormais jusqu'à ce que ses ennemis soient mis sous ses pieds. Car par sa propre offrande, il a rendu parfait pour toujours ceux qui sont sanctifiés, et le Saint-Esprit nous en rend témoignage, dans l'accomplissement de la promesse éternelle du Seigneur Dieu, qui a dit « Je mettrai mes lois dans leur cœur, et je les écrirai dans leurs esprits ». Maintenant, chers frères, de ceci rendez témoignage, témoigné par expérience, non pas allez le dire aux autres, et de la vérité et de la fidélité du Seigneur Dieu vous pouvez apposer vos sceaux, vous tous qui demeurez dans la lumière et vous détournez de l'iniquité, vous qui prononcez ce nom, qui est meilleur que tous les autres noms, devant lequel tout genou fléchira, et toute langue confessera. Et maintenant, puisque vous êtes rendus participants d'un principe vivant, pur, éternel, immortel, qui vient du Dieu vivant, par lequel vous pouvez entrer dans le lieu très saint par le sang de Jésus, par ce chemin nouveau et vivant qu'il a consacré pour nous à travers le voile, c'est-à-dire sa chair, tenez ferme la confession de votre foi sans chanceler, car fidèle est celui qui a promis. Avancez dans le chemin étroit et resserré qui mène à la vie, afin que, par la porte étroite, vous puissiez entrer, car rares sont ceux qui la trouvent. Oh ! Dans la lumière éternelle, qui est une en tout, qui conduit au Père des Lumières, et dans la mesure de lumière reçue du Père et source de lumière et de vie, que tous attendent et demeurent, et à la vie réveillée par la parole de vie immortelle, joignez vos esprits, et passez de la mort à la vie, afin d'en venir à connaître et à éprouver le véritable amour envers les frères, là où est l'unité par quoi vous saurez tous que vous êtes de vrais disciples, en ce que vous vous aimez les uns les autres, et ici vous accomplissez toute la loi et gardez le commandement. Ainsi donc, frères bien-aimés, considérez à quoi vous êtes appelés et de quoi vous êtes rendus participants, d'un sacerdoce vivant, pur et saint, vous êtes un peuple particulier, une nation sainte, et de la semence royale. Maintenant, par la lumière, qui est éternelle, qui sonde, éprouve, examine, pèse et rend toute chose manifeste, voyez de quelle nature est chaque chose, que cette lumière vous sonde et vous éprouve, comment vous grandissez dans la naissance éternelle et immortelle, et ne trompez pas vos âmes. Car à moins de naître de nouveau, d'eau céleste, non baptême d'eau terrestre et d'esprit, vous ne pouvez entrer. Voyez maintenant si vous pouvez lire cela dans la lumière, et si vous connaissez, voyez et attestez cela dans vos propres cas, oui ou non, et voyez si vous n'êtes pas comme Nicodème, qui disait « Comment ces choses peuvent-elles être ?» et si vous n'en êtes pas ignorant. Ainsi donc, venez tous à ce témoin de Dieu, et traitez franchement avec vos propres âmes, et que le juge qui se tient à la porte prononce la sentence sur vous. Que le temps passé suffise, durant lequel vous avez caché le talent dans la terre, que vous avez reçu du Seigneur pour le bien de tous. Que la terre rende ses morts, et la mer rende ses morts, et l'enfer rende ses morts, et que tous viennent au jugement. Que la mort et l'enfer soient jetés dans le lac, et abandonnez librement ce qui est pour l'épée à l'épée, et ce qui est pour le feu au feu, afin que ceux qui sont morts dans le péché puissent se lever. Car à quoi vous sert-il de prendre la profession et la forme de la vérité vivante ? Car si les morts ne ressuscitent pas, elles parlent de notre résurrection hors de la mort dès maintenant, non après avoir été ensevelis physiquement, vous êtes encore dans vos péchés, et votre foi est vaine. Voyez donc ce que vous faites. car ce n'est pas celui qui parle qui est sauvé, mais celui qui fait la volonté de mon Père, et beaucoup sont appelés et peu sont choisis. Voyez maintenant, par la lumière qui est éternelle, que vous n'êtes pas seulement du grand nombre des appelés, mais du petit nombre des élus. Appliquez-vous avec diligence à rendre sûr, non seulement votre vocation, mais votre élection. Amis, votre jour d'appel est venu, vous êtes appelés hors du monde et séparés du monde par l'appel du Dieu vivant. La lumière appelle hors de Sodome et d'Égypte, où se trouvent les multitudes. Ne vous trompez donc pas, car vous êtes quelques-uns des nombreux appelés, et vous êtes rendus participants de ce qui appelle continuellement, la voix derrière vous qui crie, « C'est ici le chemin, marchez-y, pourquoi mourriez-vous » Considérez maintenant comment vous répondez à cet appel saint, comment vous lui obéissez, comment vous vous soumettez, et comment vous êtes instruits et guidés par la mesure de l'Esprit de Dieu. Car tous les enfants du Seigneur sont instruits par le Seigneur et établis dans la justice. Cherchez maintenant par la lumière qui est éternelle, si vous êtes établis dans la justice et la pureté. Si vous ne l'êtes pas, alors soyez attentifs aux enseignements du Seigneur. Car celui qui marche dans la lumière, comme il est dans la lumière, le sang de Jésus le purifie de tout péché. Examinez maintenant si vous êtes purifié, si vous êtes purgé, si vous êtes lavé. Car si vous marchez dans la lumière, vous témoignez, vous observez et vous faites l'expérience de la purification et du lavage. Prenez garde de trahir le juste et l'innocent en vous, par une forme et une profession de la vérité sans la vie, et ainsi trahir vos propres âmes. Je vous avertis et vous enjoins, comme vous en répondrez au Seigneur. Mais tournez-vous tous vers le principe pur et éternel du Seigneur Dieu, et tenez-y vos esprits, à ce qui vous est donné pour racheter et délivrer vos âmes de la captivité et de l'esclavage du péché et de la corruption. Répondez diligemment à ce qui est de Dieu, afin que vos âmes vivent, et que vous puissiez voir votre Sauveur, qui sauve son peuple de ses péchés, et ainsi témoigner du salut de vos âmes. Vous êtes rendus participants de la grâce gratuite de Dieu, qui apporte le salut, qu'elle soit donc votre maîtresse et votre guide. Prenez garde de transformer cette grâce en licence, elle qui peut sauver vos âmes. Recevez plutôt avec douceur la parole implantée, afin d'en éprouver le lait, et, comme des nouveau-nés, désirez-la afin de croître par elle. Nous vous annonçons la parole qui est proche, dans le cœur, la parole de la foi que nous prêchons, cette parole qui était au commencement, par laquelle le ciel et la terre ont été faits, que nous avons entendu, que nous avons vu, que nos mains ont touché. C'est à la mesure de cela en vous que je suis manifesté, et ma joie et ma vie sont que vous prêtiez attention à vos propres mesures reçues, et que vous soyez vrais et fidèles à ce qui peut sauver vos âmes, afin que vous en veniez à témoigner de cette rédemption éternelle et pure, et de l'unité de la foi, et ainsi vous joindre au corps qui tient la tête, d'où la vertu vivante est reçue. Afin que vous croissiez comme des plantes vivantes dans le jardin de Dieu, que maintenant il cultive, arrosé et monde. Ainsi des fruits seront portés pour celui qui est le Seigneur de la vigne, le vigneron, qui purge toute plante qui porte du fruit afin qu'elle en porte davantage. Toute branche qui ne porte pas de fruit, il l'ôte. Voyez maintenant, par la lumière éternelle, si vous portez du fruit pour Dieu. Car tout arbre se connaît à son fruit, et toute branche que le Seigneur plante porte du fruit, non seulement des feuilles mais du fruit. Cherchez maintenant si vous portez du fruit ou des feuilles. Car l'arbre qui est dans le jardin et ne produit rien que des feuilles doit être abattu. Maintenant, amis, traitez franchement avec vous-même, et laissez la lumière éternelle vous sonder et vous éprouver pour le bien de vos âmes, car elle traitera franchement avec vous. Elle ouvrira, mettra à nu, et rendra manifeste tout ce qui demeure en vous, la subtilité secrète de l'ennemi de vos âmes, ce sondeur et éprouveur éternel la rendra manifeste. Venez donc tous à cela, et par cela laissez-vous sonder, juger, mener et guider, car c'est devant cela que vous devez tenir ou tomber. Si vous vous en détournez, c'est un témoin rapide contre l'adultère et le magicien, et vous ne pouvez fuir loin de lui. En cela, j'ai déchargé ma conscience, et pour le bien de vos âmes j'ai écrit ceci, moi qui désire que vous soyez tous là où je suis, afin que nous soyons tous saints. Ainsi que le Seigneur Dieu de vie et de puissance vous garde tous dans sa crainte, afin que vous serviez et honoriez le Seigneur Dieu, afin que vos cœurs soient gardés purs, et que vous en veniez à connaître les secrets du Seigneur, que nul ne connaîtra jamais sinon ceux qui le craignent, et cela, vous en témoignerez éternellement. Ainsi je le dis encore, craignez le Seigneur Dieu, afin d'en venir à apprendre la sagesse pure. Car redoutable et terrible est le Seigneur Dieu, et le jour de la vengeance de notre Dieu est venu, où il rend à chacun selon ses œuvres. Le rétrograde, le révolté, les désobéissants, les insouciants, les paresseux, et ceux dont l'esprit est en liberté et ne veut pas demeurer dans la croix de Christ, tous ceux-là recevront selon leurs œuvres. Ainsi, chers amis, demeurez dans la croix, et gardez vos esprits tournés vers ce qui est pur, afin d'en venir à témoigner que l'inimitié est mise à mort, que l'acte des ordonnances est effacé et cloué à la croix, et que vous êtes crucifiés au monde, et le monde à vous. Veillez les uns sur les autres et stimulez-vous à l'amour et aux bonnes œuvres, sans abandonner vos assemblées, mais en vous exhortant les uns les autres, et d'autant plus que vous voyez le jour approcher. Demeurez dans l'amour et l'unité, dans la lumière pure et éternelle. Là est votre communion, là est votre purification et votre lavage. Voilà le mystère pour tous les désobéissants. Que le Dieu éternel, de lumière éternelle, et de vie et puissance éternelle, vous garde tous ici fidèles à votre propre mesure, afin qu'ainsi vous puissiez témoigner de la résurrection et de la vie, et vous nourrir du pain vivant, dont quiconque mange ne mourra jamais. Ainsi que Dieu Tout-Puissant soit avec vous, et vous conserve tous fidèles en Christ Jésus. De votre chère sœur dans l'amour immuable de Christ, qui désire le bien de toutes vos âmes, Margaret Fell, une épître aux amis, 1657. Chers frères et sœurs, qui êtes rassemblés dans la lumière de Christ, Jésus, la source de toute lumière et de toute vie, d'où vient la lumière, d'où vient la vie, d'où vient la puissance, qui rachète de toutes nations, familles, peuples et langues, pour en faire des rois et des prêtres pour Dieu, afin de régner avec lui sur la terre. Telle est la possession des saints qui demeurent dans la lumière, laquelle les conduit dans la vie et à la source d'où elle vient. Ici est l'unité de l'esprit et le lien de la paix, qui ne peut jamais être rompu. Ici se trouve le langage pur et le culte du Seigneur, d'un même cœur, d'un même accord, d'une même âme, là où il n'y a point de division, là le sentier pur de la vie est connu, le chemin de la sainteté, où l'impur ne peut passer, où est la présence du Seigneur, où il y a plénitude de joie et des délices à perpétuité. Afin que chacun puisse lire son nom ici, c'est dans la vie immuable que ceci est écrit, que la vie pure en tout prévale, et que les pauvres reçoivent l'Évangile, qui est une bonne nouvelle d'une grande joie pour les opprimés et les accablés, qui gémissent sous l'esclavage de la corruption et crient pour la délivrance, le cri desquels est parvenu aux oreilles du Seigneur du sabbat, et il a résolu dans les pensées de son cœur que le libérateur viendra de Sion, et qu'il ramènera la captivité de son peuple, et que le salut viendra en Israël, de ça. Et bien qu'il ait été un Dieu inconnu, maintenant il s'est levé dans sa lumière, qui brille dans la conscience, et il l'a fait resplendir hors des ténèbres, et elle a brillé dans le cœur, donnant la lumière de la connaissance de la gloire de Dieu, dans la face de Jésus-Christ, son Fils. Or, à ceux qui ont longtemps été assis dans les ténèbres et sous l'ombre de la mort, à eux aussi cette lumière a resplendi, eux qui étaient jadis ténèbres, ils sont maintenant lumière dans le Seigneur, eux qui étaient morts par leurs fautes et leurs péchés, il les a vivifiés avec Christ, gloire et louange à lui pour toujours. Maintenant, chers amis, dans cet esprit vivifiant, par lequel vous êtes vivifiés hors du sommeil et de la mort de la corruption, là où Christ vous a donné la lumière, marchez en lui, apprenez de lui, qui est humble et doux. Soyez prompt à écouter, lent à parler, lent à la colère, et maintenez abaissé et retenez cette part qui reçoit des préjugés. Examinez avec soin, et prenez garde de ne pas les recevoir d'un mauvais esprit, car cela ferait tort à l'innocent, et à la simplicité tant en vous-même qu'en autrui. Il est difficile de connaître la méchanceté spirituelle dans les lieux élevés, et c'est avec la puissance spirituelle du Dieu vivant que vous pouvez lutter contre les principautés et puissances de la méchanceté spirituelle. Et c'est l'éclat de sa venue, et l'esprit de sa bouche, qui peut révéler l'homme de péché, le fils de perdition, assis dans le temple de Dieu, s'élevant au-dessus de tout ce qui est appelé Dieu, se montrant lui-même comme Dieu. Il est étroit et profond de discerner entre celui qui se montre comme Dieu et ne l'est pas, et celui qui est véritablement la vraie image. Chers amis, je vous écris ceci avec tendresse et dans un cher amour pour la semence de Dieu en vous tous, pour laquelle mon âme travaille, connaissant, et étant au fait du danger de cet esprit qui se mesure à lui-même, ce dont l'apôtre a dit que ce n'était pas sage, car de tels se vanteront de chaux hors de leur mesure, et se vanteront des lignes d'autrui. Afin donc que vous puissiez connaître et sentir la vie et la puissance de tout esprit, connaissant la vie pure en vous-même, vous en viendrez à la goûter chez les autres, et ce qui a le goût de la mort sera mort pour la vie, dans la crainte du Seigneur Dieu. Prenez garde d'étouffer en vous la naissance pure de Dieu, et de faire tort à la semence pure et innocente en vous, que Dieu vient plaider en toute chair en ces jours-ci. Prenez garde de ne pas vous joindre aux ennemis de Dieu, soit en vous-même, soit chez les autres, mais joignez-vous aux purs témoins et témoignages de Dieu, et là sera votre paix. Ici vous le connaîtrez, lui qui est la vie et la résurrection, celui qui croit en lui, quand même il serait mort, vivra, et il n'y a pas d'autre nom sous le ciel par lequel on puisse être sauvé que ce nom, qui est meilleur que tout nom, devant lequel tout genou fléchira et toute langue confessera, mais nul ne connaît ce nom, sinon celui qui a la pierre blanche sur laquelle il est écrit. De la part d'un véritable ami de la semence de Dieu dans toutes les nations. Margaret Fell, une épître aux amis, 1659. Mes très chers frères et sœurs bien-aimés, dans la vérité éternelle et l'amour éternel et la puissance d'une vie sans fin en laquelle nous avons été engendrés, nourris et gardés, comme des pierres vivantes croissant dans le temple Dieu vivant, la même puissance et le même bras sont présents avec vous, et vous reconnaissent, demeurez-y donc et que votre foi tienne ferme, en tout particulier dans la puissance et la vie de Dieu, et dans ce livre de vie vous me lirez proche, comme si j'étais présent, dans l'alliance éternelle et le lien de la paix. Que le Dieu éternel vous garde, lui qui a ramené d'entre les morts notre Seigneur Jésus-Christ, par le sang de l'alliance éternelle, et que par son sang il vous lave et vous purifie de tout péché et de tout ce qui sépare de Dieu, afin que vous ayez communion les uns avec les autres dans la lumière et la vie éternelle. Et là je vous laisse, et je vous confie à la parole sa puissance éternelle, et je vous recommande à son bras éternel, qui est capable de sauver vos âmes et de vous maintenir pour lui. Une épître aux amis en Irlande, en 1661. Mon très cher amour dans le Seigneur Dieu Tout-Puissant est pour vous tous, il ne change jamais mais demeure à jamais, et cet amour, lorsqu'on vit en lui, préserve et garde pour le Seigneur Dieu et ses commandements, lois et statuts, cet amour est l'accomplissement de toute la loi de Dieu, et répond à tous les commandements en pensée, en parole et en action. Et cela garde pur, humble et innocent, et nous façonne selon sa propre forme et son propre tempérament, et ainsi nous conduit à être une pâte nouvelle, levée dans les entrailles de l'amour éternel, qui atteint tous et s'étend à tous, même aux ennemis. Oh. Bénis et heureux sont tous ceux qui sont entrés dans ce doux état d'amour universel, qui voudraient que tous soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Telle est l'image et la nature du Dieu béni, qui tend sa main pleine de tendresse et son amour éternel à tous peuples, nations, langues, familles et idiomes. Lui qui ne fait point exception de personne, mais toute nation qui craint Dieu et pratique la justice est agréée de lui, son appel s'adresse à quiconque a soif, venez, et que quiconque a soif vienne et boive gratuitement de l'eau de la vie. Oh l'amour infini, et les entrailles de vie éternelle et de plénitude qui demeurent en son sein béni, la justice et la paix sont la demeure de son trône. Oh mes chers agneaux, que les issues de la vie soient gardées ouvertes, celles qui se déversent dans vos âmes depuis cette source bénie, afin que vous la sentiez toujours ouverte pour vous, et vous ouvert pour elle, afin que vous la sentiez toujours fraîche et nouvelle, s'écoulant dans vos âmes. Si vous trouverez la parole du Seigneur Dieu plus douce que le miel et que le rayon de miel, et ainsi vous en viendrez à connaître véritablement que l'homme ne vit pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche du Seigneur Dieu, c'est là que se tient la vie des hommes, et ainsi faire la volonté du Seigneur Dieu sera pour vous nourriture et boisson, et plus délicieux que votre nourriture ordinaire, et alors les souffrances, les épreuves et les difficultés ne vous paraîtront pas étrangères, sachant que le chef de votre salut, qui vous apprête. Ainsi donc, mes bien-aimés, soyez forts dans le Seigneur et dans la puissance de sa force, soyez fidèles, hardis et vrais envers votre Créateur, et il vous sera un époux, et posera vos pieds sur le rocher le plus sûr, afin que si les tempêtes frappent et que les ouragans soufflent, vous ne soyez point ébranlés, car celui qui vous garde est plus grand que tous, et nul ne peut vous arracher de sa main. À son bras et à sa puissance je vous confie, pour demeurer et habiter éternellement avec le Seigneur Dieu, pour qui toutes choses sont possibles. Que le Dieu d'amour, dont les miséricordes ne défaillent point, vous préserve et vous garde tous, et vous nourrisse dans son propre sein, à sa propre louange et gloire, afin que vous soyez un peuple sauvé par le Seigneur. De votre chère amie et sœur, Margaret Fell. Principales œuvres de Margaret Fox. Ses principales œuvres sont un appel aux Juifs hors de Babylone, adressé à Manassé ben Israël, célèbre rabbin juif alors en Angleterre. Un témoignage de la pierre de touche pour tous les professants, pour éprouver leur terrain et leur fondement, tous deux publiés en 1656. Une salutation affectueuse à la semence d'Abraham parmi les Juifs, la prise de parole des femmes justifiées, prouvée et permise par les Écritures, pour toutes celles qui parlent par l'Esprit et la puissance du Seigneur Jésus, et une pierre de touche, ou épreuve par les Écritures des prêtres, évêques et ministres qui se sont appelés ministres de l'Évangile, outre de nombreux autres écrits d'importance moindre. En une pierre de touche, ou épreuve par les Écritures, elle décrit ainsi la nature, le dessein et l'effet du vrai culte spirituel et du ministère chrétien, qu'elle oppose au culte formel et desséché qui prévalait tant parmi les professants de la religion en ce temps-là, Christ lorsqu'il parla à la femme de Samarie, et qu'elle lui dit que leur père avait adoré sur cette montagne de Samarie, Jésus lui dit, « Femme, crois-moi, l'heure vient, ce ne sera ni sur cette montagne à Jérusalem que vous adorez le Père, mais l'heure vient. » Et dans ce même dessein, Jésus parla à Nicodème, qui vint à lui de nuit, lorsqu'il lui dit, « en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. » À ces paroles Nicodème s'étonna, mais Jésus répondit, « Si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit. Ne t'étonne pas que je t'ai dit, il vous faut naître de nouveau, le vent souffle où il veut. » Dans ce même dessein, l'homme nommé Jean fut envoyé de Dieu pour rendre témoignage à Christ Jésus, la lumière, afin que tous les hommes crussent par lui. Il n'était pas cette lumière, mais il fut envoyé pour rendre témoignage à cette lumière, qui était la vraie lumière, laquelle éclaire tout homme venant au monde. Il était dans le monde, et le monde a été fait par lui. Celui-ci est né non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Jean rendit témoignage de lui, et s'écria, disant, « C'est celui dont j'ai parlé, celui qui vient après moi m'a été préféré, et de sa plénitude nous avons tous reçu grâce pour grâce. » pour amener les gens à cette lumière et à cet esprit du Seigneur au-dedans d'eux, Christ Jésus et tous ses saints apôtres s'employèrent par leur prédication. C'est pourquoi Jésus-Christ dit à Nicodème, « Nous parlons de ce que nous savons, et nous rendons témoignage de ce que nous avons vu, et vous ne recevez pas notre témoignage. » Voici la condamnation, la lumière est venue dans le monde, et les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière, parce que leurs œuvres étaient mauvaises. Car quiconque fait le mal est la lumière, de peur que ses œuvres ne soient reprises, mais celui qui pratique la vérité vient à la lumière, afin que ses œuvres soient manifestées, parce qu'elles sont faites en Dieu. Telle est la doctrine et le culte de Christ. Lorsqu'il prêchait parmi ses disciples, et que les scribes et les pharisiens l'entendirent, et que beaucoup de personnes en vue crurent, mais ne le confessèrent pas à cause des pharisiens de peur d'être exclus de la synagogue, Jésus s'écria parmi eux et dit, « Celui qui croit en moi ne croit pas en moi, mais en celui qui m'a envoyé. Je suis venu comme une lumière dans le monde, afin que quiconque croit en moi ne demeure pas dans les ténèbres. Et si quelqu'un entend mes paroles et ne croit pas, je ne le juge pas, car je ne suis pas venu juger le monde, mais sauver le monde. Celui qui me rejette et ne reçoit pas mes paroles à son juge, la parole que j'ai dite le jugera au dernier jour. » Christ dit aux pharisiens que le royaume de Dieu ne venait pas d'une manière à frapper les regards, mais que le royaume de Dieu était au-dedans d'eux. Et lorsqu'il envoya ses disciples, il dit, « En allant, prêchez et dites, le royaume de Dieu s'est approché. » Quand il envoya les 70, il dit, « Guérissez les malades qui s'y trouvent, et dites, le royaume de Dieu s'est approché de vous. » Nous voyons aussi, par les épîtres des apôtres laissés en mémoire, de quelle manière de doctrine et d'exhortation ils parlaient au peuple. Lorsque Pierre parle de son bien-aimé frère Paul et de ses épîtres, qu'il avait écrites, et de ce qu'il disait, il dit qu'il y a des choses difficiles à comprendre, que les ignorants et les instables tordent, comme ils le font aussi des autres Écritures, pour leur propre destruction. Ainsi ceux qui n'ont pas l'inspiration du Tout-Puissant et le mouvement de l'Esprit du Seigneur Dieu, le même qui a donné les Écritures, lorsqu'ils viennent à les interpréter et à leur donner des sens, étant ignorants en la matière, les tordent à leur propre destruction, et par conséquent ils ne profitent nullement au peuple. Ce sont ceux-là qui se séparent, des hommes sensuels n'ayant pas l'esprit. De même l'apôtre Paul dans l'Épître aux Romains, où il parle du désir de son cœur et de sa prière à Dieu pour Israël, leur dit que Christ est la fin de la loi pour quiconque croit. Car, dit-il, la justice de la foi parle ainsi, ne dis pas en ton cœur, qui montera au ciel. C'est-à-dire pour faire descendre Christ d'en haut, ou qui descendra dans l'abîme, c'est-à-dire pour faire remonter Christ d'entre les morts, mais que dit-elle, la parole est près de toi, dans ta bouche et dans ton cœur, c'est la parole de la foi que nous prêchons. Lorsqu'il écrivit aux Hébreux, il rappelle la nouvelle alliance dont les prophètes Ésaïe et Jérémie avaient prophétisé, et dit, « Voici l'alliance que je ferai avec eux après ces jours-là, dit le Seigneur, je mettrai mes lois dans leur cœur, et je les écrirai dans leur esprit. » Ces passages, parmi bien d'autres de l'Écriture, pourraient être cités à propos des apôtres, montrant comment ils exerçaient leur ministère, tant dans la prédication que dans l'Écriture. Dans la première épître de Jean, il dit, « Ce qui était dès le commencement, ce que nous avons entendu, ce que nous avons vu de nos yeux, ce que nos mains ont touché concernant la parole de vie, nous vous l'annonçons, afin que vous aussi vous soyez en communion avec nous, or notre communion est avec le Père et avec son Fils Jésus-Christ. » Voilà un vrai ministre de Dieu, qui voulait que ceux à qui il écrivait fussent en communion avec lui, lui qui était en communion avec le Père et avec le Fils, et c'est pourquoi il leur dit, « Je vous écris ces choses, afin que votre joie soit parfaite. Voici donc le message que nous avons entendu de lui et que nous vous annonçons, Dieu est lumière, et il n'y a en lui aucune ténèbre. Si nous disons que nous sommes en communion avec lui, et que nous marchons dans les ténèbres, nous mentons et nous ne pratiquons pas la vérité. Mais si nous marchons dans la lumière, comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes en communion les uns avec les autres, et le sang de Jésus-Christ, son Fils, nous purifie de tout péché. » De nouveau, le même apôtre dit, « Je vous écris maintenant un commandement nouveau, ce qui est vrai en lui et en vous, parce que les ténèbres se dissipent, et que la vraie lumière brille déjà. Que demeure donc en vous ce que vous avez entendu dès le commencement? Si ce que vous avez entendu dès le commencement demeure en vous, vous demeurez aussi dans le Fils et dans le Père. Je vous ai écrit ces choses au sujet de ceux qui vous séduisent, mais l'onction que vous avez reçue de lui demeure en vous, et vous n'avez besoin que personne vous enseigne, mais comme cette même onction vous enseigne toutes choses, et qu'elle est vérité et non mensonge, de même qu'elle vous a enseigné, vous demeurez en lui. Car vous avez une onction venant du Saint, et vous savez toutes choses. Dans A Testimony of the Touchstone for All Professors, and All Form and Gathered Church, to try their ground and foundation be, et elle les dirige vers la lumière du Christ en eux-mêmes comme guide sûr vers la sainteté. Quelques extraits sont donnés pour montrer sa manière de traiter le sujet, Maintenant la lumière du glorieux évangile s'est levée, et beaux sur les montagnes sont les pieds de ceux qui apportent les bonnes nouvelles de cet évangile, qui publient la paix, qui disent à Sion, ton roi règne. À tous ceux qui désirent connaître le chemin de Sion, cette voix crie de tourner leur visage vers la lumière de Jésus-Christ, qui vint monter sur un ânon, pour la joie et l'allégresse de tous les enfants de Sion. Revenez donc, vous tous qui errez de montagne en colline, cherchant le repos sans le trouver. Tournez-vous vers la lumière dans chacune de vos consciences, c'est la parole de la foi que nous prêchons, que Moïse enseigna à Israël, et l'apôtre Paul aux Romains, qui est près de la bouche et dans le cœur. Voici votre maître, si vous prêtez l'oreille à la lumière pure, qui vous montre la tromperie de vos cœurs et vos pensées impures, d'où procède l'impureté que la lumière met en évidence, et qui vous mettra à nu et vous reprendra en secret. Le Seigneur Dieu de vie et de puissance accomplit en ce jour son alliance éternelle, il écrit sa loi dans le cœur et la met au-dedans, de sorte que nul n'a besoin de dire « connais le Seigneur », mais tous ceux qui se tournent vers la mesure de Dieu le connaîtront, du plus petit au plus grand. Et par nulle autre voie, ni sous aucun autre nom sous le ciel, vous ne connaîtrez le Dieu vivant, sinon par cette lumière pure et cette loi écrite dans le cœur. Ici vous en viendrez à attester que le Seigneur est votre Dieu, votre roi et votre législateur, chose dont toutes les professions du monde sont ignorantes. C'est pourquoi, attachez vos pensées à cette pure mesure de Dieu au-dedans de vous, afin d'en venir à attester le nettoyage et la purification intérieure, afin de voir l'impureté qui sort du cœur et qui souille l'homme. Car du cœur viennent les mauvaises pensées, les meurtres, les adultères, les fornications, les vols, les faux témoignages, les calomnies, voilà les choses qui souillent l'homme. Et maintenant, vous, docteurs et tenants de professions religieuses qui regardez au dehors, et vous détournez de ce qui devrait purifier au dedans, comment supposez-vous que ce qui est hors de vous puisse vous purifier de cette impureté intérieure, que ce qui est de Dieu dans votre conscience voit comment vous pouvez être purifié par cela, lorsque vous vous en détournez? Mais si vous vous tournez vers la lumière qui rend ces choses manifestes, et que vous y demeurez et y habitez, alors vous vous en abstiendrez, et vous en viendrez ainsi à attester la purification. Car celui qui marche dans la lumière, comme Dieu est dans la lumière, le sang de Jésus purifie de tout péché. Et Christ Jésus a dit, « L'homme bon, du bon trésor de son cœur, produit ce qui est bon, et l'homme mauvais, du mauvais trésor de son cœur, produit ce qui est mauvais, car c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. » Et pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, et ne faites-vous pas ce que je dis? Quiconque vient à moi, entend mes paroles et les met en pratique, je vous montrerai à qui il ressemble. Il ressemble à un homme qui a bâti une maison, qui a creusé profond, et posé le fondement sur le roc. Et quand les inondations sont venues, le torrent s'est jeté avec violence contre cette maison, et n'a pu l'ébranler, parce qu'elle était bâtie sur le roc. Mais celui qui entend et ne met pas en pratique est semblable à un homme qui, sans fondement, a bâti une maison sur la terre. Le torrent s'est jeté avec violence contre elle, et aussitôt elle est tombée, et la ruine de cette maison a été grande. Maintenant, vous qui professez, voici votre édifice, éternellement vous verrez la parabole s'accomplir sur vous, la tempête et les orages viennent, votre maison sera abattue, elle ne peut tenir, car vous avez été longtemps des auditeurs qui parlent et non des faiseurs de la parole, la maison que vous avez bâtie est sans fondement, elle n'est pas fondée sur le roc, Christ Jésus. Vous qui niez la lumière, il vous dit, pourquoi m'appelez-vous Seigneur, et ne faites-vous pas ce que je dis? Sur lui vous serez mis en pièces, vous et toute votre profession. Cela est connu et vu, vous êtes rendu manifeste, vous ne pouvez pas vous cacher. Swarthmore Hall au XX siècle, Swarthmore a été restauré et transformé en bed and breakfast, s'adressant particulièrement aux membres de la Société des Amis, mais ouvert aux autres. La description suivante de l'état et de l'apparence de Swarthmore Hall en 1850 est tirée des Select Miscellany d'Homestead. Swarthmore Hall, le rôle, bien qu'il soit encore un bâtiment de taille considérable, n'est plus ce qu'il était autrefois, une grande partie tombée en ruine a été entièrement enlevée, la fenêtre en encorbellement depuis laquelle George Fox prêchait au peuple dans le verger subsiste encore, et l'on croit que le propriétaire du domaine est tenu d'offrir un lit à tout ami voyageur. L'hospitalité des amis d'Ulverston, toutefois, empêche que ce droit soit réclamé, et de mémoire d'homme, on ne connaît aucun cas d'un ami ayant exercé ce privilège. L'ancien lit légué par George Fox était autrefois conservé ici et pourrait bien s'y trouver encore. La pièce où les amis tinrent leur réunion pendant les 40 premières années et qui furent généralement honorés de la présence de George ou Margaret Fox et d'autres des parents en Christ de la société demeure dans son état primitif. Elle possède une fenêtre à embrasure et à une extrémité, une estrade surélevée qui servait de tribune aux ministres. La situation du hall est quelque peu singulière et pittoresque. Allait jusqu'à la baie de Morecambe, s'étend une étendue de riches terres ouvertes rivalisant par la beauté, les bois et la fertilité, avec n'importe quel comté d'Angleterre, le domaine de Swansmorol comprenait autrefois une grande partie de ces terres. Vers l'ouest s'étend la morne étendue de Swansmore récemment enclos, mais contrastant encore fortement avec les riches pâturages du paysage opposé. Vers le nord, on distingue la ville d'Ulverston et au-delà les montagnes pointues de Coniston et la région des lacs. Le voisinage immédiat du Roll est occupé par un antique bosquet d'arbres forestiers, qui dérobe partiellement à la vue la lande stérile, tandis qu'au pied du verger se trouve un vallon boisé, au travers duquel un ruisseau murmure sur son lit de cailloux. La maison de réunion est un bâtiment isolé, à un quart de mille du Roll. On y entre à l'ancienne, par un porche avec un banc de chaque côté, et au-dessus de la porte l'inscription « Ex Dono G. F. 1688 » dont de George Fox 1688. On suppose communément qu'il assistait à cette réunion. Or, il n'en est rien, il n'y a jamais siégé, se trouvant dans le sud de l'Angleterre depuis son achèvement jusqu'à son décès. Elle fut toutefois bâtie à ses frais, et sur un terrain donné par lui, le seul lopin de terre qu'il ait jamais possédé en Angleterre. En entrant dans le passage qui part du porche, on voit deux piliers d'ébène noire, simples et élancés, un de chaque côté soutenant le plafond. On les appelle parfois les montants de lit de George Fox, et à juste titre, car ce sont les montants du lit mentionnés plus haut. On jugea que la meilleure façon de préserver les deux principaux montants, tout en les mettant sous les yeux des étrangers, était de les placer à cet endroit. Il y a ensuite deux grands fauteuils massifs, en chêne plein, ornés de sculptures, ils appartenaient à George Fox et à sa femme, et furent transférés ici depuis le Roll. Contigu à la maison de réunion se trouve le cimetière, qui est assez récent. L'ancien cimetière se trouve à Sunbrake, à environ un mille et demi, et constitue pour beaucoup un lieu d'un intérêt particulier et profond. Il est au bord d'une lande stérile, dont la partie la plus élevée est faite de calcaire nu, et au point le plus haut de l'ensemble se trouvent les restes d'un fanal. À environ un tiers de mille au sud de ce fanal, là où commencent les terres cultivées, se trouve une petite enceinte entourée d'un mur de 8 pieds et à laquelle on accède par une porte basse et étroite. Ce lieu, pendant environ les 70 premières années d'existence de la société, fut le lieu de sépulture rattaché à la réunion de Swarthmore. Ici reposent les dépouilles de beaucoup qui ont supporté persécution et souffrance par scrupule de conscience et nous ont ainsi obtenu les privilèges dont nous jouissons. Bien des hommes et des femmes courageux dans la cause de la vérité ont été déposés ici, une fois délivrés des troubles du temps. Parmi eux reposent les restes de Margaret Fox, à proprement parler une mère en Israël, dont les souffrances furent rendues plus aiguës par l'aisance dont elle avait auparavant joui. Son corps emprisonné s'est bien frappé d'une peine de prémonir, et pourtant son noble esprit demeura intact. Fin. Le but de ce site web est de montrer comment être libéré du péché en bénéficiant de la puissance transformatrice de Dieu par la croix, qui conduit à l'union avec Dieu dans son royaume.